C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteur Woody Allen, né en 1935. Œuvre Zelig, film 1983. Personnage Léonard Zelig, interprété par Woody Allen. Je me souviens d'une planche de Claire Bretécher dans le Nouvel Observateur au début des années 1980. We love you, Woody. Et en effet, les années 80 sont parmi les meilleures de ce cinéaste qui s'est laissé aller depuis, disons, Matchpoint en 2005 à des films peut-être plus anodins. Mais qu'importe si Balzac a écrit de mauvais romans populaires puisqu'il a inventé la comédie humaine. Woody Allen laisse plusieurs films qui ont marqué le cinéma. Annie Hall, Manhattan, Zelig. Tout le monde n'était pas d'accord. Dans ces années-là, Philip Roth a donné une interview où, en passant, il traite Woody Allen d'amuseur et de truqueur. Eh bien, il me semble que disant cela, Philip Roth réagissait à ce qu'était devenu son personnage à lui de Portnoy. Le complexe de Portnoy, c'est ce roman où un homme raconte son adolescence, sa découverte de la sexualité opprimée par une mère juive, comme si toutes les mères n'étaient pas juives, et se défoulant dans la masturbation, qui, soit dit en passant, est tout aussi passionné chez les musulmans. En 1970, c'était nouveau et audacieux. Puis, sous l'effet de la popularité de certains comiques américains, dont Woody Allen, un certain type d'humour juif, nouveau dans la culture populaire de ce pays, a banalisé, sinon effacé, l'apport du complexe de Portnoy. Pour commencer, l'humour juif existe-t-il ? Est-ce qu'on n'assigne pas une qualité à un groupe afin de le cantonner et, aussi bien, de le diminuer ? Il existe des juifs lugubres et sans humour, de même qu'il existe des noirs ne sachant pas danser et des gays sans goût, bien sûr. Mais il me semble qu'on peut dire que l'humour juif existe dans la mesure où beaucoup de juifs aiment jouer la comédie de cet humour par lequel ils se moquent d'eux-mêmes. Je crois qu'il n'existe qu'un autre groupe à avoir un humour semblable et ce sont les Anglais. Deux humours faits d'autodérision, la grande différence étant que l'autodérision anglaise est l'expression d'une supériorité, le fin sourire du vainqueur qui concède avoir un ou deux petits défauts, tandis que l'autodérision juive est l'expression d'une faiblesse, le sourire du vaincu qui n'a pas d'autre espoir que sa ténacité. Dans Zelig, Woody Allen a créé un personnage durable qui n'est évidemment et heureusement pas réaliste, mais un personnage fabuleux par lequel il révèle un comportement si courant qu'on peut le dire un type. Il y avait Zelig, il y a des Zelig. Qui est Zelig, l'homme pour qui se faire aimer ressemble à ses ennemis? Pour en parler, je reçois Guillaume Erner. Tous les auditeurs de France Culture le connaissent puisque c'est lui qui produit et présente Les Matins de France Culture. Son dernier ouvrage paru est La souveraineté du people chez Gallimard. Guillaume Erner.
Bonjour Charles.
Bonjour. Dites-moi d'abord à quoi ressemble physiquement Zelig. Je sais que c'est compliqué parce qu'il ressemble à beaucoup de gens.
Et oui, en fait, Zelig est, comme vous l'avez dit, un archétype. Donc par conséquent, il n'a pas de physique, sinon celui de Woody Allen, jeune, je veux dire relativement jeune, puisque le film date de 1983, comme vous l'avez rappelé, et Zelig est un archétype d'un homme malade du mimétisme. C'est finalement ainsi que l'on pourrait le présenter de la manière la plus évidente, c'est-à-dire qu'il devient son interlocuteur lorsqu'il est face à un gros, il devient gros, lorsqu'il est face à un psychiatre, eh bien il devient ce psychiatre, et il a la capacité non pas seulement à vouloir se faire aimer, parce que en fait, l'amour n'est que la conséquence de ce qu'il pense être comme son but, c'est-à-dire d'imiter absolument et radicalement les personnes qui l'entourent.
Alors, il faut dire que ça se passe dans les années 20 et 30, n'est-ce pas ?
Ça commence exactement en 1928. C'est une date importante pour le monde et pour Woody Allen. Pour le monde, parce que c'est présenté comme étant la période du pic d'insouciance, l'acmé de l'insouciance américaine. C'est vraiment les années folles dans l'imaginaire américain, surtout lorsqu'on le compare à ce qui va suivre, bien entendu. Et puis, c'est aussi une date importante, à mon avis, pour Woody Allen, parce que en 1929, sa famille est ruinée. Et donc, les conséquences du climat familial dans lequel il va être élevé, eh bien, n'existaient pas encore. Donc, j'imagine que c'est une date à laquelle il tient beaucoup.
Ça veut dire qu'ils ont réussi à se ruiner avant la crise de 29.
Non, ils vont se ruiner à la faveur de la crise de 29. Mais justement, c'est la dernière année d'insouciance de sa famille parce qu'il n'y a pas encore la ruine et parce qu'il n'y a pas encore le nazisme.
Alors, la grande astuce de Woody Allen dans ce film est qu'il mêle des images d'archives authentiques avec des témoignages contemporains, et on y voit des gens comme Saul Bellow, Susan Sontag.
Alors, effectivement, c'est ce qu'on appelle un mockumentary, et on pourra revenir là-dessus, c'est-à-dire un faux documentaire qui semble documenté de manière extrêmement sérieuse, avec effectivement des théoriciens. Le film s'ouvre sur Susan Sontag, mais il y a aussi, effectivement, comme vous l'avez dit, Saul Bellow, Irving Ho, qui est un spécialiste de littérature yiddish, Bruno Bettelheim. Et donc, on va se lancer, en fait, dans un cas, comme s'il s'agissait d'un cas freudien, d'un cas qu'on va analyser de manière extrêmement sérieuse, à ceci près que ce cas est purement imaginaire, et ce cas va être analysé, c'est-à-dire qu'en fait ça fonctionne de deux manières, c'est une forme de chiasme, c'est-à-dire on a à la fois une théorie de la fiction et une fiction de la théorie, et donc on va voir effectivement comment ce cas va être analysé de la manière la plus sérieuse qui soit par des gens que l'on sait être des références, particulièrement dans les années 80 aux États-Unis.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le film, il arrive à un traitement après une scène particulière dans une fumerie d'opium où il est transformé en chinois. Et là, on lui demande d'enlever son déguisement, mais ça n'en est pas un. Et ça dit déjà tout.
Oui, alors ce qui est très intéressant, c'est que ce film sur l'identité et sur la capacité donc d'un individu à prendre une autre identité que la sienne, voire à ne pas pouvoir aller à l'encontre de ce penchant, puisque c'est présenté comme étant effectivement un syndrome. Donc c'est à la fois un syndrome fascinant, puisqu'on va suivre la manière dont la presse va s'emparer de ce phénomène, dont celle-ci va se passionner pour le personnage joué par Mia Farrow, qui est le docteur Eudora Fletcher, qui va tenter de soigner Zelig et qui, le soignant, va en tomber éminemment amoureuse.
Il faut dire, pardon de vous interrompre, il faut dire qu'il est d'abord traité par des médecins normaux, si je puis dire, qui supposent beaucoup de bêtises, un cancer, il mange trop, et elle est analyste.
Et c'est elle qui, de la manière la plus freudienne qui soit, va tenter de soigner cet homme et va le soigner au travers d'une scène qui est une scène extrêmement importante dans le film. C'est une forme de psychodrame qu'elle crée, où comme elle est en face de lui et que lui se présente comme un psychiatre, puisque il est en face d'un psychiatre et un véritable médecin, et lorsqu'elle lui renvoie au contraire l'image d'une personnalité mimétique qui n'est pas médecin mais qui se fait passer pour un médecin, eh bien c'est comme si l'aporie éclatait aux yeux de Zelig, et donc il ne parvient plus à jouer le personnage de celui qui imite l'autre. C'est en fait la faille dans le mimétisme. Il y a quand même une chose sur laquelle on pourra revenir, Charles Danzig, c'est qu'en fait, Zelig est capable de prendre n'importe quelle identité, c'est-à-dire qu'il devient noir à côté d'un noir, il devient chinois, comme vous l'avez dit, à côté d'un chinois, mais il ne change pas de genre.
Oui, il peut pas devenir femme.
C'est quelque chose d'assez étonnant, parce que on voit bien qu'aujourd'hui la question de la race est une question qui obsède les États-Unis et pas seulement, mais la question du genre aussi. Et c'est uniquement en cela d'ailleurs que Woody Allen, là en revanche, ne franchit pas cette barrière, alors que d'autres films peuvent, Dustin Hoffman a joué avec cela dans Tutsi, bref, il y a d'autres précédents.
Oui, mais le truc, c'est que Woody Allen est très, lui-même a suivi une analyse, est très marqué par l'analyse, et que il y a peut-être une chose, c'est qu'il peut pas, Zelig ne peut pas se transformer en femme parce qu'il n'est pas, il ne peut pas être l'objet d'une castration.
Et vous avez raison, et je pense aussi, mais ça, c'est probablement mineur. Il se pourrait que ce qui se noue avec le docteur Fletcher ne fonctionnerait pas de la même façon si Zelig se transformait également en femme, ce qui est peut-être un autre argument qui explique pourquoi il y a finalement du mimétisme et une limite dans ce mimétisme.
Alors, il y a une raison psychologique qui est donnée dans le film, une raison biographique au comportement de Zelig. Pourquoi est-ce que petit à petit, il en arrive à se transformer en les autres?
Et oui, parce qu'en fait, il est présenté comme étant issu d'une famille martyre, mais je crois qu'il y a également chez Woody Allen, c'est un thème récurrent, une forme de comique. Alors, vous parliez de l'humour juif, en tout cas, Woody Allen l'incarne, je ne sais pas si cet humour, l'humour juif, oui, existe, s'il est possible de le résumer, mais lui l'a incarné, ça c'est évident, et cet humour est d'autant plus drôle chez Allen que les circonstances sont d'autant plus catastrophiques, que cet enfant est issu d'une famille battue, que ce Zelig va se confronter aux monstruosités du siècle, puisqu'il était quasiment attendu de voir Hitler, et nous voyons Hitler, et on le voit avec le procédé que vous décriviez, et qui a fait couler beaucoup d'encre à l'époque, qui consistait donc à glisser ce faux personnage dans de vraies archives, de vrais films d'actualité.
Et ça montre aussi ces archives d'actualité et la célébrité dont vous parliez. Vous qui avez écrit La souveraineté du people, est-ce que vous n'y voyez pas les prémices dans Zelig? C'est-à-dire, c'est aussi, c'est pas essentiellement, mais c'est aussi une satire de la popularité, de la célébrité à l'américaine. Parce qu'on fait des chansons sur lui, des films.
Absolument. Enfin. C'est-à-dire qu'en fait, tout personnage de ce type, comme les people qui sont à la fois filmés dans leur quotidienneté, épiés dans leur quotidienneté, et particulièrement appréciés dans leur dimension atypique. Et donc cet homme atypique, mais qui est atypique de manière extrêmement ironique, puisque finalement sa particularité, c'est de ne pas en avoir. C'est-à-dire qu'il est capable d'être tout le monde à la fois. Il est tellement lisse, finalement, qu'il est complètement plastique. Et c'est en cela qu'il peut ridiculiser la célébrité, parce qu'une célébrité est considérée comme étant unique en son genre. Et lui, son unicité, c'est de ne pas en avoir.
Il est faible et plastique, dites-vous, Guillaume Herner, c'est très juste, mais en même temps, il est très perspicace, c'est pas du tout un imbécile. Dans une séance d'hypnose, il dit à Eudora Fletcher, qui est donc jouée par Mia Farrow, « Bien sûr, vous n'êtes pas aussi intelligente que vous le croyez ».
Oui, mais alors je pense que c'est intéressant là aussi de suivre le poids que le freudisme a eu, que l'hypnose a eu, parce que c'est toute la dimension finalement irrationnelle des États-Unis qui est à mon avis soulignée là par Allen, dans la mesure où finalement la croyance en l'existence d'un inconscient, la croyance finalement qu'il est possible d'avoir une unicité entre la fiction et la réalité, puisque c'est cela qui est en cours finalement. C'est un thème là aussi qu'on retrouve chez Woody Allen dans La Rose pourpre du Caire un peu partout. C'est le fait qu'il y a, encore une fois, entre la théorie de la fiction et la fiction de la théorie, une forme d'unicité. Il y a un caractère profondément homogène dans cela, et c'est quelque chose que l'on suit d'un film à l'autre.
Mais la question étant que, étant intelligent et perspicace, comment est-ce qu'il ne voit pas l'aberration qu'il y a à tenter de se transformer dans les autres?
Et je pense qu'en fait, Woody Allen ne s'impose pas du tout le réalisme. Et là aussi, c'est un autre caractère de ses films. Il n'est pas du tout obligé de faire une démonstration. C'est un artiste. Et donc, si son idiosyncrasie consiste à présenter un personnage qui est atteint de mimétisme, eh bien, il n'a pas du tout à vous fournir les preuves que tout cela est réaliste, puisque bien entendu, ça ne l'est en aucune manière.
Nous allons entendre The Chameleon, le caméléon, chanson créée à la suite de la popularité de Zelig dans les années fin. Selon le film de Woody Allen, il y avait même une danse spécifique, on voit Joséphine Baker la danser. Tire ta langue comme les reptiles, essaie d'attraper une mouche et tu fais le caméléon.
They
Guillaume Erner, Zelig, le personnage du film de Woody Allen dont nous parlons dans ce personnage en personne, c'est aussi une satire de l'héroïsme américain. Le mot héroïsme est prononcé au début du film, ça m'a assez frappé. Et ce qui est très étonnant et presque paradoxal dans ce film, c'est que Zelig devient une célébrité grâce à des qualités qui sont tout le contraire des qualités américaines d'habitude requises pour devenir une célébrité. C'est pas un entrepreneur, c'est pas un cow-boy, c'est pas un soldat. Au contraire, il est faible.
Oui, et il est faible, il est dirigé par les autres de l'intérieur, il est inner directed, comme on pourrait le dire, comme l'a dit David Riesman. Je pense que le passage par Riesman est intéressant. Riesman est un sociologue américain qui, dans les années 50, a publié l'un des plus grands best-sellers sociologiques de l'histoire des États-Unis, La foule solitaire. Et dans ce livre, Riesman explique que les États-Unis sont passés du type radar au type au type radar. Le type stroboscopique, c'était l'individu qui tournait sur lui-même, c'est-à-dire qui avait son principe en lui et qui était suffisamment autonome pour pouvoir se diriger lui-même. Mm-hmm. On est passé de ce type-là, dit-il, au type radar, c'est-à-dire le type radar est un individu qui va chercher l'avis des autres pour savoir comment mener sa propre vie.
Et ça, il le situe quand ?
Il le situe dans les années 50, puisque c'est le type d'individu dont il parle. Et cette question donc du inner directed personnage qui va donc disparaître au profit donc d'un individu qui est extrêmement attentif à ce que les autres pensent de lui est quelque chose qui traverse la pensée américaine. C'est quelque chose que discute Alan Bloom. Et ce qui est intéressant, c'est que Alan Bloom justement va évoquer Zelig pour en parler.
On le voit d'ailleurs dans le film, hein, Alan Bloom.
Le Zelig est typiquement le personnage qui, pour lui, est l'incarnation même de ce que l'Amérique est devenue, c'est-à-dire une suite de personnes qui ont trop peu d'identité, qui ont besoin de l'avis des autres pour se faire une identité, y compris d'ailleurs dans la question du capitalisme, parce que la consommation est fondée sur l'absence d'identité pour un certain nombre de commentateurs. Et dans Zelig, eh bien, on voit très bien que une manifestation communiste est dirigée contre Zelig, parce que pour les communistes qui manifestent, eh bien, Zelig incarne une forme de compromission avec le capitalisme, le fait de ne pas avoir d'identité, de pouvoir être extrêmement polymorphe dans sa capacité à vivre son existence.
Dans une des scènes quasi finales du film, Zelig revient en Amérique d'Allemagne, on reviendra à l'Allemagne après, dans un avion avec Eudora Fletcher, et l'avion fait la traversée à l'envers, et je me demande, la traversée de l'Atlantique tête en bas. Et je me demande s'il n'y a pas un petit clin d'œil de Woody Allen, là, justement sur l'inversion des valeurs que représente Zelig.
C'est une inversion des valeurs qui est tout à fait étonnante, parce que lorsque l'on prend l'histoire des États-Unis, si on prend par exemple Tocqueville, qui je crois n'a pas connu Zelig, eh bien, dans la démocratie en Amérique, Tocqueville dit « Les États-Unis, c'est la société où existe le sentiment du semblable. Et si quelqu'un a le sentiment du semblable, c'est Zelig. Il a tellement le sentiment du semblable qu'il devient le semblable lui-même et qu'il considère finalement qu'il n'a plus de véritable limite à son identification avec autrui. »
Ce qui est intéressant de la part de Zelig, c'est que ça n'est pas de la séduction. Ça va au-delà de la séduction. La séduction, c'est un désir de plaire, c'est amener quelqu'un à soi. L'étymologie même le dit. Et lui, c'est pas ça du tout qui
oui,
le me...
Oui, alors il y a quand même des fils que l'on peut tirer vis-à-vis de Woody Allen, notamment, par exemple, l'attitude qu'a Zelig vis-à-vis de la chose intellectuelle. Dans son autobiographie, Woody Allen dit qu'il n'est pas un intellectuel, qu'il y a eu méprise sur son personnage, sur sa réelle identité. C'est quelqu'un qui aime le baseball, qui aimait le sport, qui était plutôt bon en sport, et qu'il est devenu une sorte de symbole pour la scène intellectuelle new-yorkaise, alors qu'il ne le méritait pas. Et Zelig, c'est quelqu'un qui cherche, pendant tout ce film, à lire Moby Dick, à apprécier Moby Dick, alors qu'en réalité, lui aussi, il préfère les films de baseball. Cela, c'est une forme qui est particulièrement parlante. On voit bien le parallèle qu'il y a entre Allen et son personnage. Par ailleurs, il y a évidemment la question de l'assimilation juive, puisque Zelig, c'est aussi une allégorie du destin des Juifs aux États-Unis, de Woody Allen, qui ne s'appelle pas du tout Woody, mais qui s'appelle Alan Königsberg. Alan étant un prénom typiquement écossais, je crois que ses origines écossaises sont ténues. Et chez Zelig aussi, il y a finalement une sorte d'horizon juif ou de destin juif à vouloir se fondre dans les États-Unis.
Bah, d'ailleurs, vous citiez tout à l'heure Irving Howe dans la première partie de l'émission. Il intervient un peu plus tard dans le film de Woody Allen pour dire « Zelig, je le cite, Zelig est l'expérience même du juif en Amérique, s'assimiler ».
Oui, avec, à mon avis, quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement cette assimilation est le destin du juif, mais la culture américaine est irriguée et campée dans un certain nombre de ses symboles par des juifs, par l'invention du goût juif. Là aussi, je crois que le fait de repartir d'Hollywood, puisque Hollywood est un thème important chez Allen, Hollywood qui est en partie une invention juive, il y a un livre de Neil Gabler à ce sujet, An Empire of Their Own, qui explique comment, en fait, une certaine forme de sociologie juive a inventé le goût hollywoodien dans les années 20. Woody Allen l'incarne et Zelig et cette allégorie-là aussi. C'est-à-dire cette manière de voir finalement comment ce jeu sur la fiction, le fait de s'échapper par la fiction parce que malheureusement la réalité est dure.
La différence est que les premiers juifs de Hollywood ont colporté des idées et un imaginaire qui n'étaient pas du tout juifs. C'était des films de cow-boys, c'était des films archi-américains. Or, justement, ce qui me semble assez nouveau chez Woody Allen, qui n'est pas le premier, il y a eu Lenny Bruce avant, c'est que est venue s'instiller là une forme de pensée ou de critique plus à proprement parler plus juive et plus fière d'elle-même,
oui,
qui n'existait pas.
Vous avez aussi la scène qui est particulièrement drôle où vous avez une interprétation de Shakespeare par des juifs orthodoxes qui est là aussi un moment particulier. Vous avez les deux choses en fait, c'est-à-dire vous avez aussi bien des personnages comme Ralph Lauren qui va inventer le style américain alors que Ralph Lauren est l'incarnation du schmatesse américain, c'est-à-dire de la manière que l'on peut avoir d'inventer une mode. Et puis vous avez aussi effectivement une manière d'être à la fois campé sur son identité juive et d'infuser dans la culture américaine. L'autre exemple qui est, à mon avis, éclairant et qui continue à faire du mockumentary, c'est-à-dire un faux documentaire, c'est Sacha Baron Cohen, qui est particulier. Et vous voyez bien chez Sacha Baron Cohen, y compris d'ailleurs dans son dernier Borat, dans le Borat 2, comment le thème juif est un thème extrêmement important, comment il va se jouer des stéréotypes antisémites.
D'ailleurs, il arrive à Zelig dans le film l'apothéose du zeligisme, c'est-à-dire de se transformer en son ennemi même, puisqu'on le retrouve à une tribune avec Hitler.
Et ça, alors, pour le coup, chez Sacha Baron Cohen, vous avez exactement ce même thème. C'est un thème qui est aussi diffusé par un autre juif célèbre, par Chaplin, lorsque le dictateur est incarné par ses soins, vous voyez bien en fait comment on peut réussir à devenir l'autre, l'autre haï, et en fait dans la proximité que Zelig a avec Hitler, puisqu'il va avoir la possibilité, donc y compris même de devenir nazi, on le voit donc dans l'entourage du Führer dans les années 30, on voit comment ce fantasme d'Allen peut prendre forme.
Et Sol Bello dans le film intervient pour dire que Zelig devient fascisme car le fascisme sait se fondre dans la masse.
Oui, parce que il y a l'idée que la foule, ça c'est la pulsion irrationnelle et inconsciente, que la foule est par essence fasciste et que c'est l'individu qui peut la sauver, que s'il y avait eu une résistance des individus en tant que tel, il n'y aurait pas eu probablement ce déferlement de fascisme. Mais c'est ça aussi l'ambiguïté de la culture américaine, qui est à la fois une forme de démocratie avec le sentiment du semblable, dit Tocqueville, mais aussi une démocratie où le sentiment du semblable doit normalement donner lieu à des individus héroïques, comme vous le disiez tout à l'heure.
Et cela procède aussi, vous parliez de Moby Dick, Zelig dit « j'avais honte de pas avoir lu Moby Dick ». Ça procède d'un sentiment de honte, mais qui peut s'appliquer à bien d'autres minorités que les juifs.
Oui, mais là, en l'occurrence, je crois que il y a la volonté chez Allen de s'intégrer à un autre milieu qui est incarné par Susan Sontag ou par Saul Bellow, qui est le milieu de la scène intellectuelle new-yorkaise, qui est incarné par ces personnages. Et j'ai l'impression qu'Allen a traîné toute sa vie ce sentiment d'être un imposteur, puisqu'il le répète encore une fois dans son autobiographie. Il dit qu'il n'est pas un intellectuel, qu'il y a eu méprise là-dessus et qu'on a tort de le prendre pour cela. Et c'est seulement à la fin de Zelig qu'il a enfin la possibilité de lire Moby Dick.
Et d'ailleurs, à la fin est un peu sentimentale, puisqu'on cite Scott Fitzgerald disant « Ce qui le sauve n'est pas le mimétisme, mais l'amour d'une femme ».
Oui, et c'est d'ailleurs cette rencontre, mais là aussi, il y a probablement des parallèles importants à faire entre la vie d'Allen, puisque c'est son épouse de l'époque, Mia Farrow, qui joue ce psychiatre qui réussit à le sauver dans le film.
Guillaume Erner, que vous a appris le personnage de Zelig?
Et il m'a appris le fait que le mimétisme est effectivement l'une des bases de la société moderne actuelle et que c'est une forme d'horizon indépassable. Probablement que l'on pourrait considérer que c'est une maladie mentale provisoire, mais à l'échelle de la société tout entière, parce que finalement, c'est nous tous qui sommes atteints aujourd'hui de mimétisme et qui n'arrivons pas à nous guérir pleinement de cette dérive-là.
C'était Personnage en personne, le 133e. Réalisation Perret Legras, chargé d'émission Meryl Moneghetti, prise de son Audrey Guélil.